On a toujours une bonne raison de détester le service public. Un prof absent, un bureau de poste fermé trop tôt, un mail des impôts qu'on attend depuis des semaines, une attente trop longue aux urgences de notre hôpital. Mais qu'est-ce qu'ils font tous ces fonctionnaires ? Eh bien, si l'on prend le temps de les écouter, ils font ce qu'ils peuvent les fonctionnaires. En première ligne face aux élèves, aux malades et aux usagers en général, ils et elles tentent de résister aux nombreux coups de boutoir de gouvernements successifs qui martèlent leur envie de, je cite, « maîtriser les dépenses publiques », comme on dit poliment. De leur côté, les fonctionnaires crient haut et fort qu'ils et elles n'ont plus les moyens de travailler correctement. Alors on écoute les fonctionnaires et on essaye de comprendre pourquoi les services publics sont en danger. Bienvenue à tous et à toutes dans La Lorgnette. Merci de nous rejoindre. Vous êtes en direct, il est 17h et on donc s'intéresse cette semaine à la fonction publique et aux nombreuses attaques qu'elle subit en ce moment dans ces trois branches. On va y revenir avec mes invités. Bonjour à tous les deux, Didier Calvo, secrétaire général de l'Union CGT 41. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Emmanuel Mercier, co-secrétaire FSU 41. Bonjour.
Bonjour.
Comme je le disais donc un peu caricaturalement en intro. On a toujours une bonne raison d'avoir un grief contre la fonction publique parce qu'il en manque, parce que c'est fermé, parce qu'on attend trop longtemps. Pourquoi ? Allez-y.
Mais enfin, moi j'aime bien votre introduction parce que elle soulève un point, c'est que les services publics, on se rend compte qu'ils sont utiles et efficaces lorsqu'ils ne fonctionnent pas ou qu'ils sont fermés. C'est-à-dire que ça fait tellement partie du quotidien des citoyennes et des citoyens, tellement partie du quotidien des gens. C'est comme la lumière, en fait. On pense plus que pour l'allumer, il faut de l'électricité. Les services publics, c'est pareil. C'est quand c'est en panne qu'on se rend compte que finalement, il y en a et qu'on en a besoin.
Didier.
Oui, l'introduction me convient aussi, oui, évidemment. Après, il y a un besoin. C'est dans les périodes où les travailleuses et travailleurs, les usagers des services publics, ils ont le plus besoin, ils sont le plus en difficulté socialement, qu'ils ont le plus besoin de services publics. Et c'est évidemment, leur exigence, elle est tout à fait naturelle. Et que ce soit à l'égard de fonctionnaires ou de non-fonctionnaires, puisque les services publics, ils sont rendus par des fonctionnaires, mais pas seulement, et de moins en moins. On pourra en discuter là aussi. Et ils sont de moins en moins de proximité, notamment pour ce qui concerne la fonction publique hospitalière, enfin, classique, les trois branches hospitalières d'État et territoriales.
On va y revenir en présentant et en contextualisant justement tout ça. Alors évidemment, on est au mois de mai qui s'ouvre avec un jour férié, la journée internationale des droits des travailleurs, qui est symboliquement et historiquement un jour de mobilisation et de manifestation dans les rues. Cette année, dans les médias des milliardaires, comme il faut désormais les appeler, on a beaucoup parlé de la grogne des boulangers qui ne pouvaient pas ouvrir, des fleuristes qui ne pouvaient pas ouvrir. Alors ce n'est pas la fonction publique, mais on voit, avant de commencer, de rentrer dans cette lorgnette consacrée à la fonction publique, que le travail est au cœur du sujet et qu'on se plaint et que le monde libéral a de plus en plus tendance à pousser à travailler même sur un jour férié comme celui-ci. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Est-ce que vous avez senti un peu de mouvement à ce niveau-là ?
Ouais, je pense que cette grogne des boulangers ou des fleuristes, elle marque une époque. D'abord, elle marque le fait que dans le discours libéral, dans le discours patronal, il n'est plus possible d'avoir un jour férié, que ce soit le dimanche ou un jour chômé plutôt, que ce soit le dimanche ou le 1er mai. Mais il faut replacer les choses, c'est que rien n'interdisait aux boulangers ou aux fleuristes d'ouvrir leur boutique et de produire du pain. Simplement, ils ne pouvaient pas faire travailler leurs salariés. Donc je pense qu'il faut là aussi recontextualiser et resituer les choses. Contrairement à ce qui a été dit, ils avaient tout à fait le droit d'ouvrir et de vendre du pain ce jour-là, en fait.
C'est bien de le rappeler, c'était sur ce terrain-là que je voulais vous emmener. On les a moins entendus que les patrons de boulangerie, notamment. On a aussi des salariés qui se plaignaient qu'ils ne pouvaient pas travailler. Est-ce qu'on peut d'une manière les comprendre, puisque un jour férié comme celui-ci va être payé double et que la précarité grandissante et le besoin d'avoir de l'argent, hein, pour se nourrir, habiller ses enfants, payer les scolarités, ne justifie pas aussi que ce discours gagne un peu de terrain dans le monde salarié.
Bien sûr, c'est tout à fait naturel et logique pour un salarié. En fait, lui, le salarié, il met à disposition, il vend sa force de travail et le propriétaire des moyens de production, il retire de cette force le travail, le profit pour le profit maximum. Donc c'est ça le principe. Donc évidemment, le salarié, lui, il souhaite que sa force de travail soit le mieux rémunérée. Évidemment, la meilleure façon pour lui aujourd'hui, c'est de travailler plus, hein, puisqu'il a du mal. C'est tout l'enjeu de la revendication de l'augmentation des salaires. Donc on comprend tout à fait cette opposition. C'est tout à fait normal. Maintenant, le 1er mai n'est pas une journée fériée comme les autres. Hein. C'est-à-dire que sur les autres journées fériées, il n'y a pas d'interdiction de travailler avec des exceptions.
De nombreux magasins ouverts le 8 mai, jeudi prochain.
Il n'y a pas d'interdiction de travailler sur les autres jours fériés, qui sont pour la plupart des jours d'origine religieuse. Mais celui-là, l'origine n'est pas religieuse, puis c'est pas un cadeau non plus de Pétain, c'est le produit de la lutte des travailleurs pour justement réduire leur temps de travail avec le même salaire, voire de meilleurs salaires. Donc ça, c'est le produit des luttes. Alors c'est peut-être un peu passéiste, c'est peut-être un peu ringard, mais en tout cas, des gens se sont battus et sont même morts sur des barricades pour gagner nos journées de travail à 8 heures, pour 8 heures de travail, 8 heures de loisirs. 8 heures de repos. Donc ça, c'est une victoire syndicale, c'est une victoire des travailleuses et des travailleurs dans leur lutte. C'est pour ça que c'est une journée de lutte. Donc cette offensive-là, c'est pas simplement une offensive pour aller démontrer qu'il faut travailler pour gagner de l'argent, c'est une offensive contre la lutte des travailleurs. Donc c'est une contre-offensive libérale contre le droit des travailleurs de défendre leurs intérêts, et y compris l'augmentation de salaire. Donc c'est une portée politique et idéologique qui vise aussi à masquer les revendications, notamment sur les budgets sociaux qui sont aujourd'hui en réduction du fait de la politique guerrière du gouvernement.
Voilà, on tenait juste à le signaler, à remettre dans le contexte aussi ce 1er mai, puisque le mardi 13, les intersyndicales ont appelé à se mobiliser, cette fois-ci donc pour les services publics. C'était le 13 mai dernier. Les trois branches donc de la fonction publique se sont mobilisées à plus ou moins grande échelle. Donc on va plonger dans le cœur du sujet pour lequel je vous ai invité tous les deux aujourd'hui. Est-ce qu'on peut donc rappeler les trois branches et remettre donc dans le contexte de leur création, de leur articulation, les trois ensemble? Donc la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Qui veut prendre la parole?
La fonction publique, c'est un processus long. Il faut leur mettre, faut mettre la construction de la fonction publique dans un processus très long.
Vous êtes là pour ça.
Alors le premier statut, contrairement à ce qu'on pense, c'est 40, c'est Pétain en fait, qui voulait des fonctionnaires obéissants. Est soumis au pouvoir politique en place. Puis ensuite, il y a eu la libération et il y a le statut porté par Thorez en 45 pour la fonction publique d'État, qui est un statut aussi, donc de même nature que ce qu'avait fait Pétain, sauf que dans son contenu, évidemment, on a supprimé tout ce qu'avait fait Pétain pour créer des fonctionnaires, justement, qui soient citoyens à part entière, qui soient indépendants du pouvoir politique et responsables des tâches qui leur sont confiées. Et ça, c'est les grands principes de la fonction publique d'État en 45. Et toute l'histoire de la fonction publique, c'est d'aller vers l'unification avec les autres versants, l'hospitalière et la territoriale. Et c'est en 83, c'est les lois Lepors, ministre communiste en 83 de la fonction publique, qui unifie les statuts dans un statut général avec les trois versants État, hospitalière et territorial. Et il faut bien voir que depuis 83, mais quasiment au lendemain de 83, parce que vous avez la cohabitation très vite après, et tout de suite la droite commence à détricoter le statut en commençant par la territoriale, justement. Et ce statut, il est important parce que, en fait, pour les fonctionnaires, aujourd'hui, le statut d'aujourd'hui, c'est en fait la nation, donc les représentants de la nation, donc les députés, qui fixent les droits et les obligations des fonctionnaires. Et ça garantit l'indépendance vis-à-vis des intérêts privés, ça garantit, je parle en théorie beaucoup là, mais ça garantit le fait que les fonctionnaires soient au service de l'intérêt général et non des intérêts particuliers. Et ce statut, il est construit en 83 sur un triptyque, trois principes, qui se raccrochent tous à des éléments fondamentaux de la démocratie et qui remontent à la Révolution française. Le premier principe, c'est l'égalité d'accès à la fonction publique. Donc ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et c'est le recrutement par concours. Le deuxième principe, c'est, alors c'est technique, mais c'est ce qu'on appelle la distinction du grade et de l'emploi, c'est-à-dire que le grade appartient au fonctionnaire et l'emploi appartient à l'État, et c'est ce qui garantit l'indépendance du fonctionnaire, c'est-à-dire que le fonctionnaire, même s'il perd son emploi, il conserve son grade et donc il conserve sa rémunération. Et ça, c'est fondamental parce que ça garantit l'indépendance du fonctionnaire vis-à-vis du pouvoir politique. Et puis le troisième, qui est très important et sur lequel il faut qu'on insiste parce que c'est très remis en cause par les libéraux, c'est le principe de responsabilité. C'est-à-dire que le fonctionnaire est responsable des tâches qui lui sont confiées. Il a l'obligation, le devoir de s'opposer à un ordre qui serait contraire aux lois et qui toucherait aux intérêts de la nation. Donc ça, c'est fondamental. Et par rapport à Pétain, c'est une opposition, en fin de compte, par rapport à ce statut-là. Et donc, ce triptyque-là, en fait, c'est un ensemble de choses qui garantit que les fonctionnaires sont indépendants et sont au service de l'intérêt général, c'est-à-dire au service des citoyennes et des citoyens.
Est-ce qu'on peut rappeler donc de quel corps de métier, quel secteur sont dans chaque branche, hein, notamment donc voilà, on a la fonction hospitalière donc qui est assez claire, mais dans la fonction territoriale et dans la fonction d'État, est-ce qu'on peut les rappeler quels sont les principaux en tout cas corps de métier qui habitent les branches?
Alors, pour la fonction publique d'État, il y a plusieurs ministères qui correspondent à plusieurs services publics et fonctions publiques. Alors, il y a évidemment l'éducation, et là, ou l'enseignement, donc là, qui représente la plus grosse partie des effectifs de la fonction publique d'État. Mm-hmm. Mais on a d'autres fonctionnaires d'État. Vous avez aujourd'hui, dans le département, pour avoir une idée précise, donc...
C'est l'idée.
Voilà, on a aujourd'hui des directions qu'on appelle des services déconcentrés de l'État, mm-hmm. qui sont présents sur le département, et qui aujourd'hui sont inclus dans ce qu'on appelle des directions départementales interministérielles. Et qui sont... les services déconcentrés de l'État, c'était évidemment des agents de fonctionnaires, donc qui travaillaient pour leur ministère, avec une autorité qui relevait du ministère. Aujourd'hui, les directions départementales interministérielles, on garde le même statut de fonctionnaire, des services déconcentrés, mais sous l'autorité au moins fonctionnelle et des moyennes du préfet. Donc ça, c'est un recul, sur le fonctionnement et les moyens qui sont alloués à la fonction publique d'État. Dedans, vous avez... Là, tout ce qui est, par exemple, direction départementale des territoires, qui vont traiter un certain nombre de missions, notamment agricoles ou d'aménagement du territoire, etc. C'est eux qui recueillent par exemple les dossiers de politique agricole commune, qui vont faire des contrôles sur des questions écologiques, sur l'eau, là, etc., police de l'eau, etc. Et puis vous avez aussi la direction départementale de l'emploi, donc vous avez par exemple l'inspection du travail qui relève de la DSPP, de la protection des populations, mais vous avez à l'intérieur aussi des services de la direction générale de la concurrence et des fraudes, et vous avez la sécurité alimentaire, donc anciennement les services vétérinaire. Ça relève de la fonction publique d'État, mais vous avez également la direction départementale des finances publiques, hein, donc ce qu'on appelle les impôts, qui relèvent aussi du statut de fonctionnaire et qui constituent un service déconcentré de l'État pour ce qui concerne le prélèvement de l'impôt.
Et dans la territoriale?
Alors dans les territoriales, il y a les statuts communs, mais c'est une fonction publique plus particulière. Ouais. Hein, donc il s'agit de fonctionnaires, mais qui sont occupés dans les conseils départementaux, notamment, pas seulement, hein, ça peut être les mairies, municipalités, etc., communautés de communes.
Tout ce qui est géré, tous les fonctionnaires qui sont
au niveau local, des collectivités,
salariés
par les collectivités territoriales.
Les collectivités
donc,
territoriales.
En fonction de la nature des structures qui se multiplient, effectivement, communautés de communes et autres, avec évidemment une gestion humaine qui se fait dans le cadre des communes elles-mêmes, qui ont leur propre représentation du personnel, mais aussi par le centre de gestion qui conseille les communes et qui s'occupe de la gestion du personnel des communes de moins de 50 salariés ou de celles de plus de 50 qui souhaitent conserver le lien avec le centre de gestion.
On va revenir aussi un peu séparément sur chaque branche ensuite. Alors, quels étaient les principaux points de mobilisation dans cette manifestation, dans cet appel à mobilisation du mardi 13 mai, ici en Loire-et-Cher, mais j'imagine à l'échelle nationale, messieurs?
Le 13 mai, on était dans la poursuite d'actions qui avaient déjà été menées depuis le 5 décembre, notamment, parce que aujourd'hui encore, on a une attaque frontale contre les services publics par l'entrée budgétaire, en fait. C'est le budget de l'État qui s'attaque aux services publics. La dernière grande attaque contre le statut, ça a été Macron au début de son premier quinquennat avec la loi dite de transformation de la fonction publique. Et là, il ne touche plus tellement au statut et on attaque le budget, donc on attaque les moyens du service public et les droits des agents. Le 13 mai, c'était la poursuite des mobilisations contre notamment le jour de carence qui a été institué il y a quelques années, contre la baisse de la rémunération en cas de congé maladie, c'est-à-dire qu'on punit les fonctionnaires par le fait d'être malade, et puis pour les augmentations de salaire. Alors, dans le cadre général, et pour que les salariés gagnent mieux, mais aussi pour que les fonctionnaires, pour que les métiers de la fonction publique soient valorisés à leur juste niveau. Et c'est important parce que ça participe à ce que les agents soient d'abord impliqués dans leur travail, mais en plus, c'est une garantie démocratique de bien rémunérer les fonctionnaires. Là, il y a un sujet sensible qui commence à monter, c'est la question de la corruption dans certains services, et qui entre par quel biais ? Par le biais des agents qui sont plus fragiles dans la fonction publique, donc des contractuels, moins payés, et donc, et notamment par le narcotrafic, enfin c'était dans le journal L'Humanité d'il y a deux jours, je crois, par ce biais-là, des agents qui sont en mesure de... enfin qui subissent des pressions finalement extérieures et qui du coup
les décisions peuvent être influencées
et donc d'où l'intérêt d'avoir une fonction publique où les agents sont protégés et bien rémunérés.
On a parlé d'une volonté. Alors, vous parliez, Emmanuel, du début de cette action, de cette mobilisation au 5 décembre. C'était il y a un siècle, si on compte en nombre de premiers ministres déjà partis. C'était Michel Barnier à l'époque. Alors, on était sur la fin, hein, très clairement. Mais c'était Michel Barnier qui prévoyait, Bayrou est sur la même ligne, hein, j'imagine, peut-être même plus, 40 milliards d'économies prévues au budget 2026 dans la fonction publique où sont prévues ces coupes, ces économies.
Ouais, alors les 40 milliards, c'est pour le budget de l'État.
Oui, bien sûr, voilà, c'est pour ça. Mais voilà,
Niveau de la fonction publique, les 40 milliards, dans un premier temps, ça se finançait par des suppressions d'emplois, puisque dans l'éduc, on était à 4000 suppressions d'emplois, mais de toute façon, c'était un peu pareil dans toutes les fonctions publiques, au moins au niveau de l'État. Des pressions fortes sur les collectivités territoriales, notamment dans les dotations de fonctionnement des collectivités qui servent à rémunérer les agents territoriaux et les recruter. Donc quand on coupe cette ressource-là, les collectivités à un moment donné taillent aussi dans leurs effectifs. Et donc c'est comme ça qu'on... Et puis par des fermetures de services. Aujourd'hui, on parle, il y a un projet de loi à l'Assemblée dit de simplification de la vie économique qui prévoit des fusions d'agences de l'État. Et là aussi, c'est une source d'économie pour le budget de l'État, mais surtout de dégradation des services publics. Enfin, Didier parlait de la police de l'eau ou de l'OFB, par exemple. On n'est pas à l'abri que l'OFB, qui est une agence de l'État, soit fusionnée, par exemple, avec les parcs naturels, et du coup, perd en mission, on dilue les missions, et on fait des économies comme ça de structures, tout en dégradant le service public.
François Bayrou a déclaré il y a quelques temps qu'il fallait, donc je le citais hein, justement poliment, maîtriser les dépenses publiques en arguant qu'il y avait eu une augmentation de 6,7% de la masse salariale en 2024. Alors, c'est quoi ? Où est le problème, les fonctionnaires ?
En fait, alors, c'est à la fois pas un problème et un problème. En fait, c'est un mauvais signe. C'est surtout le signe que la fonction publique vieillit et que les agents vieillissent. Parce qu'en fait, l'augmentation de la masse salariale, c'est tout simplement l'évolution des carrières. Qui fait que, évidemment, avec le glissement...
C'était l'éclaircissement que je voulais,
la masse salariale augmente. Donc, c'est bon signe pour les agents en place parce que donc, leur rémunération continue à progresser par la carrière. Et ce qui n'est pas bon non
pas
plus.
Pas par une revalorisation. C'est une évolution naturelle. Plus on reste longtemps dans un métier...
C'est un choix politique. C'est-à-dire que l'évolution de carrière n'a pas vocation à compenser les pertes de pouvoir d'achat, en fait. Bon, bref, mais ça, c'est un autre débat. Mais du coup, le signe négatif, c'est justement que la fonction publique vieillit. Et elle vieillit pourquoi ? Parce qu'on ne recrute plus et parce que les métiers sont dévalorisés et n'attirent plus les jeunes. Or, encore une fois, la fonction publique, c'est fondamental dans le fonctionnement des services publics, dans le fonctionnement démocratique de notre pays. Et donc la masse salariale, oui, elle augmente, mais c'est pareil. Si vous prenez le budget, la part consacrée aux pensions, elle va augmenter aussi parce qu'en proportion, on va avoir plus de pensionnés par rapport au nombre d'actifs. Et donc, parce que voilà, les retraites des fonctionnaires sont aussi prises sur le budget de l'État.
Je lisais dans un article de Libération il y a quelques jours que, je cite, l'université est particulièrement touchée par les ajustements budgétaires avec des coupes dans les crédits pour l'enseignement supérieur et la recherche. Je cite Dean Lewis, président de l'université de Bordeaux. Bien que le budget total alloué aux universités et aux écoles augmente de plus de 300 millions d'euros en 2025, c'est insuffisant au regard des dépenses nouvelles, masse salariale, inflation, dont le gaz et l'électricité qui s'imposent et qui sont de l'ordre de plus de 600 millions en 2025. On revient à ce que vous disiez, une augmentation certes, mais pas au niveau, et donc finalement ça revient à ne rien augmenter en fait. Il y a quand même une perte sèche pour tous les budgets, que ce soit dans l'enseignement, dans l'éducation ou ailleurs, Didier.
Ou dans la santé.
Ou dans la santé.
C'est exactement le même. En fait, les besoins, ils augmentent. Mmh. Ils s'arrêtent pas sur les choix politiques. C'est pas parce qu'on a décidé que les habitants de l'Indre ou du Loir-et-Cher n'ont pas besoin d'une maternité proche de chez eux que ça empêchera d'avoir des besoins d'accoucher à proximité, en sécurité. Ça, mmh. c'est clair. Donc c'est la même chose pour, par exemple, les besoins en santé, puisque pour la fonction publique hospitalière, c'est une particularité quand même qu'il faut préciser. Hein. Le financement de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale, c'est par les impôts, globalement. Hein. Pour la fonction publique hospitalière, le financement des salaires des soignants, du nombre de soignants et des moyens, c'est sur la base des cotisations sociales, en grande partie.
Auquel tous les salariés participent.
Voilà. C'est le budget de la sécurité sociale qui va financer l'hôpital public en grande partie. Mm-hmm. Donc il y a la volonté de l'État d'aller financer directement par l'impôt pour éviter que ce soit évidemment la production de richesses, donc les richesses créées par les salariés dans les entreprises qui financent leur propre protection sociale.
Okay. Voilà.
Donc ça c'est important. Mais ça veut dire que tous les ans, les budgets, notamment en santé, ils augmentent d'à peu près entre 7 et 10%. Globalement, et tous les ans, la décision politique de l'État, c'est d'augmenter les dépenses de santé de 2,8 à 3,2%. Donc on peut toujours dire que ça augmente, et effectivement ça augmente, mais les besoins augmentent 2 à 3 fois plus vite que les dépenses en santé. Donc ça veut dire qu'on se soigne toujours plus mal dans le département, et à plus forte raison dans le département qui est quand même, d'un point de vue médical, plutôt un désert médical. Donc effectivement, ça veut dire qu'on peut augmenter les dépenses générales, mais concrètement, les salaires, les traitements des fonctionnaires, eux, ils sont bloqués. Les lits sont supprimés à l'hôpital public, en particulier à Blois, puisque c'est une évolution qui est constante. Hein. Donc ça veut dire que pour arriver à cet objectif de dépenses de santé inférieur aux besoins, eh bien, on va supprimer des lits, on va bloquer les salaires et on va supprimer l'accès aux soins de proximité. Voilà. Et on va mutualiser des moyens, par exemple, sous la forme des groupements hospitaliers de territoire, pour aller nous expliquer qu'on n'a pas besoin d'avoir des services publics de proximité, et notamment en santé. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Les augmentations, il y a des augmentations de dépenses, effectivement, mais qui sont très éloignées des besoins et qui, à très court terme, entraînent des réductions de moyens et de plus en plus de difficultés d'accéder aux soins, notamment. On le voit tous les jours, avec les difficultés pour accéder aux soins d'urgence.
On va y revenir notamment sur la fonction hospitalière. On fait une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après pour continuer à parler de la casse dans les services publics. À tout de suite.
Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans vous, on ne peut rien du tout? Les études ne sont guère nécessaires pour les hommes que l'on dit ordinaires. 4% de fils d'ouvriers à l'université. Mais pour voter, même par une croix à signer, on vous incitera. Et si jamais trop nombreux vous refusez d'y aller, un jour, si vous n'y prenez garde, on vous y conduira par aiguillon électrique, à bétail pour aller plus vite, comme en Amérique. Mais c'était à Selma, à Alabama. C'est pas notre chair, c'est pas notre sang, on s'en fout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans vous, on ne peut rien du tout. Les étudiants ont manifesté, par la police ont subi des sévices. Mais c'était à Lisbonne, au Portugal. Mais cette fois c'était leur chair, c'était leur sang. Les bourgeois de la ville ont renié publiquement 40 années de gouvernement. Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans nous, personne ne peut rien du tout?
Colette Mani, les gens de la moyenne. Je suis avec Didier Calvo du syndicat CGT 41 et Emmanuel Mercier du syndicat FSU 41 pour parler de la casse et des coupes budgétaires prévues dans les services publics. On parlait avant cette petite pause de la fonction hospitalière. Didier, je vais citer aussi un témoignage recueilli dans le journal Libération qui cite William, 34 ans, qui est infirmier avec 3 jours de carence. Ça va me permettre d'aller sur ce sujet pour réattaquer. Il a fort à parier que la durée des arrêts va s'allonger. Plutôt que de rester chez eux 2 jours pour surmonter une infection, les soignants vont s'arrêter 1 semaine, histoire d'être sûrs de ne pas rechuter. Comme on est déjà en sous-effectif, nos conditions de travail vont encore se dégrader puisque les arrêts courts ne sont pas remplacés. Sans compter que cela risque d'aggraver les difficultés de recrutement de l'hôpital puisque dans le privé, les conventions collectives couvrent les jours de carence des infirmiers en arrêt. À force de tirer sur l'ambulance, il ne faudra pas s'étonner qu'elle ne roule plus. Au bout du bout, ce sont les patients qui vont trinquer. Donc là, on a 2 sujets. On a la fonction, l'état de la fonction publique hospitalière dans ce cas précis, mais aussi un enjeu de santé publique. Donc on voit bien que ça craque un peu de tous les côtés. Emmanuel, Didier.
Oui, alors là, je ne peux pas être plus clair que le témoignage que vous citez, c'est très clair. Alors après, les jours de carence, on est à 1 jour de carence, hein, sauf erreur, mais c'est déjà beaucoup. Ça veut dire surtout que les salariés, les fonctionnaires iront au travail malades. Parce que c'est ça qui va se passer.
Que ce soit dans l'hôpital ou ailleurs, hein, d'ailleurs.
Que ce soit à l'hôpital ou ailleurs. C'est valable aussi dans le privé, hein, parce qu'il y a une détérioration de l'état de santé des salariés de manière générale, avec des pathologies qu'on ne devrait plus retrouver aussi massives qu'aujourd'hui, notamment des troubles musculo-squelettiques, qui, alors qu'on a des moyens d'adapter le travail à l'homme et à la femme, eh bien on a des recrudescences de ces pathologies qui sont liées aussi aux conditions de travail, à la perte de sens du travail, à la souffrance au travail. Mais là, on est effectivement... ce jour de carence-là, il va entraîner, effectivement, il va faire en sorte que les salariés vont se rendre au travail malgré tout, hein, parce que le salaire est tellement aujourd'hui comprimé qu'ils n'ont pas le choix. Il va falloir aller travailler malade, hein, bien entendu. Et puis, évidemment, alors pour clarifier les choses, hein, que les arrêts soient courts ou longs, ils sont généralement pas remplacés. De manière générale, aujourd'hui, il n'y a plus les moyens. Le remplacement, il se fait toujours en interne par des glissements de tâches à l'hôpital, que ce soit à l'hôpital public et sur les établissements qui relèvent de l'hôpital public, tels que les EHPAD. C'est vrai que les personnes disponibles vont remplacer dans le même établissement les agents qui sont absents. Donc ça va encore aggraver la charge des soignants, puisque quand les agents sont absents, c'est nécessairement pour une longue durée et pas simplement pour être indemnisés, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas de salariés, les fonctionnaires ne sont pas des feignants. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il n'y a pas plus d'arrêt de travail dans la fonction publique qu'il peut y en avoir dans le privé. Ça, c'est une légende urbaine. C'est pas vrai.
Est-ce que, et je vous laisse la parole après, Emmanuel, je vais dire un gros mot. Est-ce qu'on essaye par ces moyens de privatiser la fonction publique? De la mettre au même niveau, de lui donner les mêmes gages, etc.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on crée du mécontentement chez les usagers. Et ça, c'est une méthode qui est utilisée depuis très longtemps. C'est-à-dire que pour justifier une fermeture de service public, on commence par le dégrader. Comme ça, les usagères et les usagers sont mécontents. Et donc, on dit, vous voyez, les gens ne sont pas contents, donc on va fournir ça au privé, on va fermer, le privé fera mieux, etc. On connaît la chanson. Mais sur les jours de carence, enfin, sur la problématique des congés maladie, il y a également quelque chose de particulier, c'est que souvent, les agents publics sont en contact avec du public, justement. Et il y a même un enjeu de santé publique derrière. C'est-à-dire que si on envoie des gens malades au contact d'un public qui n'est pas malade, on risque de rendre le public malade.
Même en dehors de l'hôpital, comme vous le
signalez. Même en dehors de l'hôpital, c'est vrai dans les écoles, c'est vrai à la mairie quand vous allez au guichet, c'est vrai, enfin voilà. Et ce jour de carence-là, c'est quand même, oui, c'est une punition en fait, parce qu'en plus, ce qu'il faut bien voir, c'est que, en tout cas pour ce qui concerne la fonction publique d'État, l'État est son propre assureur. Donc en fait, les congés maladie ne coûtent rien à la sécurité sociale, c'est l'État qui prend en charge. Donc le jour de carence, c'est même pas des économies sur la sécurité sociale en réalité, c'est des économies éventuellement sur le budget de l'État, mais surtout c'est une inégalité forte par rapport au privé, parce que dans une multitude d'entreprises, voire par accord de branche, les jours de carence sont pris en charge par l'employeur. La fonction publique, c'est 5 millions d'agents, à l'État c'est 1 million, 5, 2 millions. Il n'y a aucune entreprise de cette taille-là, d'ailleurs, qui existe déjà, mais même les entreprises de taille 10 fois plus petites vont prendre en charge les jours de carence. Donc ça veut dire que, ne serait-ce que par équité, en fin de compte, il est tout à fait normal que l'État prenne en charge les jours de carence.
Didier ?
Oui, alors justement, dans la fonction publique, le terme d'équité, on le reprend parce que c'est ça qui est repris politiquement pour les justifier ces reculs qui sont imposés à la fonction publique. Il n'existe pas, c'est l'égalité. Voilà. Donc en fait, il y a toujours une stratégie d'aller opposer les fonctionnaires aux usagers. Il y a une stratégie qui consiste à opposer les fonctionnaires aux salariés du privé. Mais finalement, il y a des conventions collectives où tous les jours de carence ne sont pas pris en charge. Il faut voir quand même que ce qui a inspiré un certain nombre de conventions collectives, c'est le statut de la fonction publique. Si vous voulez. Aujourd'hui, par exemple, la convention de 66, qui régit les relations entre les salariés des associations du médico-social, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui est la plus grosse convention collective, elle s'inspire de la fonction publique parce qu'elle attache en fait les droits des salariés à la personne et pas à l'emploi. C'est ça le principe de la fonction publique. Donc ça veut dire que la fonction publique, les droits des fonctionnaires, c'est des droits qui sont moteurs pour les revendications des salariés du privé. Par exemple, quand on démolit la convention de la métallurgie parce qu'on considère qu'un salarié doit être payé par rapport à ce qu'il rapporte à l'entreprise, par rapport au poste qu'il occupe et à sa productivité, et non plus par rapport à sa qualification professionnelle... Eh bien, ça, c'est un recul qu'on veut aussi faire admettre et imposer dans la fonction publique. C'est pour ça qu'on recourt de plus en plus aux contractuels et qu'on porte atteinte au statut de la fonction publique.
Et en rappelant, les contractuels, c'est aussi de la précarité, etc.
Oui, c'est plus pratiquement 1 million de contractuels de manière générale dans les trois fonctions publiques. Voilà. Avec des droits qui sont quand même très inférieurs, y compris, si on veut faire toujours le parallèle avec le privé, à des salariés de droit privé. Aujourd'hui, un hôpital public qui veut se débarrasser d'un salarié qui est licencié, il va arguer une restructuration, il n'a pas besoin de démontrer qu'il a des difficultés économiques. Il y a une restructuration, il n'y a pas la place du contractuel, il est dehors. Il est licencié et il n'y a rien du tout qui se passe. Il n'y a pas de droit. Donc là, il repart avec ce qu'on veut bien lui donner, point final. C'est ça le statut aujourd'hui des précaires dans la fonction publique en général, et en particulier dans la fonction publique hospitalière.
En parlant de précarité et de salaire, un autre témoignage recueilli dans le même article de Libération, qui donc interrogeait plusieurs personnes mobilisées dans les manifestations. Cyril, 45 ans, directeur d'un accueil de loisirs. Aujourd'hui, après 15 ans dans la fonction publique, je gagne 1 200 € par mois en travaillant 70%. Donc il est à temps partiel, mais... 1 200 € par mois, on voit que c'est relatif, enfin c'est même très peu. C'est un aménagement que j'ai demandé depuis 3 ans à la suite d'un problème de dos qui s'est aggravé à force de travailler avec les enfants. Il ira manifester donc en solidarité avec les collègues. Que va-t-il se passer si un jour, pour ne pas perdre 3 jours de salaire à cause de ces jours de carence, l'animateur sous grippe va au travail et contamine toute la classe? On en parlait. Ce qui m'intéresse, c'est le début de ce témoignage, donc avec une faible somme de rémunération après une carrière qu'on peut déjà considérer assez importante au sein de la fonction publique, donc 1 200 € par mois à 70% du temps après 15 ans de carrière.
Il y a, en fait, c'est attaqué par deux biais. Il y a la rémunération des fonctionnaires, en fait, il y a deux éléments. Il y a la carrière et donc la position dans la carrière. Donc ça, c'est un nombre de points d'indice. Et puis, il y a la valeur du point d'indice. Et ça, c'est commun à l'ensemble des fonctionnaires. Et c'est une spécificité, c'est que quand on augmente la valeur du point d'indice, on augmente l'ensemble des fonctionnaires des trois versants. de façon unique et uniforme. Et cette valeur du point d'indice, nous, notre revendication, mais qui est commune avec celle de la CGT, c'est qu'elle soit accrochée au moins à l'évolution des prix, parce que c'est l'élément de base de la rémunération. Puis après, il y a la carrière. Et il faut bien voir qu'aujourd'hui, dans les catégories B et C, donc il y a trois catégories en fonction publique, A, B, C, A, les cadres, B, les agents de maîtrise, et C, les exécutants, voilà. Et il faut bien voir que les débuts de carrière en catégorie B et C, le niveau de rémunération statutaire est inférieur au SMIC. C'est-à-dire qu'on a des agents de la fonction publique, donc ils sont compensés par une forme de prime, en fait, enfin par une bonification indiciaire, une forme de prime. Et donc on a des agents en catégorie C qui, pendant 10 ou 15 ans dans leur carrière, ne vont pas progresser et vont rester au niveau du SMIC. Parce qu'en fait, y compris l'évolution de leur carrière dans la grille indiciaire, reste inférieure au SMIC. Et ça, c'est un pur scandale, et c'est une vraie attaque, finalement, au statut. Et après, on s'étonne que les jeunes ou les moins jeunes ne viennent pas vers les métiers de la fonction publique. C'est pareil, en catégorie A, vous avez un enseignant, ça a été beaucoup dit, mais c'est vrai pour toutes les catégories A quasiment, qui démarre à 1,2 voire 1,5 SMIC, après bac plus 3 ou bac plus 5 selon les catégories. Vous comparez par rapport à un salaire de trader ou d'ingénieur même, hein, pour, dans le privé, qui a la même qualification, bac plus 5, un ingénieur, il ne démarre pas à 1,5 SMIC, c'est pas vrai. Donc là aussi, on a un vrai problème d'attractivité par ce biais-là.
Est-ce que on peut envisager, donc au-delà de la revalorisation des salaires, des solutions concrètes, effectives, applicables rapidement, qui redonneraient un peu de souffle à la fonction publique?
Alors, en termes de salaire ou de conditions de travail,
soufflons sur le champ des possibles.
Bah, en termes de salaire, évidemment, pour nous, ce qui est déterminant, c'est l'augmentation du point d'indice. Hein, mm-hmm. Parce que le problème des salaires, de la composition des salaires de la fonction publique, c'est la tendance évidemment, il y a eu des augmentations de rémunération, si vous voulez, de la fonction publique, hein, mais qui sont pas calculées sur ce qui font de la fonction publique, c'est une évolution progressive des salaires. Et sur l'indice, en fait, hein, sur le point d'indice. Là, on a des évolutions qui sont discutées au fil de l'eau, régulièrement, sur des primes liées, des primes de suggestion, ou par exemple, dans l'inspection du travail, on peut avoir, pour prendre cet exemple que je connais un peu, on pouvait avoir à peu près 35 à 40% de la rémunération totale constituée de primes. Ces primes qui constituent un élément de salaire, mais qui ne seront pas prises en compte, pour les droits, par exemple à la retraite, etc. Donc ça veut dire que la perte de revenus, y compris pour un salarié qui a un agent fonctionnaire qui a des faibles revenus, il va y avoir une perte de salaire, donc de pouvoir d'achat, comme on dit aujourd'hui, qui sera énorme. Donc déjà, à partir du moment où on peut, une des revendications qui doit être satisfaite, c'est de prendre en compte, d'intégrer cet élément de salaire, ces primes qui vont de 20 à 40% pour certains fonctionnaires, dans le salaire soumis qui génère des droits à la retraite. Ça sera déjà la possibilité de ne pas avoir des retraités pauvres ou moins de retraités pauvres. C'est une première mesure. Mais c'est aussi le rétablissement du versement de la JIPA, qui est une garantie indemnitaire. Voilà. Mais c'est essentiel. Si on veut avoir une autre fonction publique, il faut se donner les moyens de l'avoir. Donc il faut des services publics de proximité. Et pour ça, il faut faire un choix politique. Le choix politique aujourd'hui, c'est de financer l'armement pour préparer la guerre. Donc c'est pas de financer les services publics. Est-ce qu'on veut se soigner et vivre à Loir-et-Cher en bonne santé, ou on veut financer réserver l'argent, le produit des impôts, au profit des marchands de canons. Elle est là aujourd'hui la question. Donc évidemment, ou on fait le bon choix, ou on fait le choix des profits pour une minorité. Donc ça, ce choix, pour nous, il a été fait par le gouvernement. Et nos revendications, c'est évidemment de transformer les choses radicalement. C'est-à-dire qu'il faut répondre aux besoins des gens, il faut répondre aux besoins des assurés sociaux, il faut répondre aux besoins des usagers en général. Et pour ça, il faut une fonction publique de proximité, avec des moyens et avec des salaires à la hauteur des qualifications des agents.
On a Emmanuel, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, Non, mais c'est la question. Il y a des mesures immédiates à prendre. Didier le rappelait, par exemple, la garantie individuelle de pouvoir d'achat, donc la JPAC, a été supprimée par ce gouvernement-là. Pourquoi elle a été supprimée? En plus, c'est cocasse. Parce qu'elle a été supprimée parce que ça allait coûter une blinde, en fait, dans le budget de l'État à cause de l'inflation. Donc, voilà, faut rappeler ça aussi. C'est que ça allait toucher tellement un nombre d'agents tellement important. La JPAC est versée quand les agents perdent du pouvoir d'achat, en fait, sur une période de 5 ans. Et donc là, ils l'ont supprimé depuis 2 ans parce qu'en fin de compte, il y a trop d'agents qui peuvent y prétendre. Donc en fait, vous cassez le thermomètre et puis vous n'avez plus de température. C'est pareil, c'est la même logique. Et après, sur la question budgétaire, il faut, de notre point de vue à plus long terme, d'abord, il faut réhabiliter l'impôt. Parce que les contributions publiques, c'est nécessaire pour faire fonctionner les services publics, c'est nécessaire pour faire fonctionner l'État et donc la société. Donc cette réhabilitation de l'impôt, contribution publique, elle est indispensable. Et quand on fait, on voit qu'on a un milliardaire, Pierre-Édouard Sterrin, qui revendique de fuir le fisc parce qu'il décide c'est lui qui veut décider de quelle cause il va financer. C'est l'antithèse du citoyen, en fait. Et donc il faut réhabiliter l'impôt parce que c'est quelque chose de nécessaire. Et donc, ça permettra d'agir sur les recettes de l'État et peut-être qu'on arrêtera d'agir sur les dépenses pour équilibrer les budgets.
Je voudrais pas quitter cette émission qui tire vers la fin sans énerver un petit peu Emmanuel. Je vous propose un petit sonore qui va vous rappeler d'excellents souvenirs, je pense.
Du professeur des écoles, je ne critique personne. Je veux d'ennuyer avec personne. Je dis des faits. C'est 24 heures. Par semaine, mais François-Xavier, est-ce qu'on ne dit pas 6 mois de l'année? Je sais bien, il faut préparer les cours. Maternelle, grande section. Mais il faut dire la vérité maintenant. Nous n'avons pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants.
Au-delà de la caricature, vous l'aurez reconnu, hein, c'est le délinquant multirécidiviste Nicolas Sarkozy qui s'exprime sur les professeurs avec toutes les caricatures possibles et imaginables. Je m'arrête sur la dernière phrase et Emmanuel, vous aurez le loisir de revenir sur l'intégralité. Nous n'avons pas les moyens d'entretenir un million d'enseignants. Au vu de la casse dans l'éducation nationale, est-ce qu'il ne faudrait pas en entretenir un peu plus?
Bah, déjà, c'est toujours un plaisir de recevoir des leçons d'un délinquant en col blanc. Mais en plus, ce personnage, Sarkozy, qui a été président de la République, mais qui a aussi été ministre de l'économie et des finances, c'est quand même à partir de lui qu'il y a eu une énorme casse de la fonction publique. Je rappelle, hein, Sarkozy président, c'est le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Et c'est une mesure complètement dogmatique, en fait. Hein. Voilà, donc c'est, je veux dire, l'état des services publics aujourd'hui, Sarkozy en est grandement responsable par ailleurs. Mais au-delà de ça, là on est absolument dans la caricature. ATTAC a sorti un rapport sur la question des moyens. Est-ce qu'on a les moyens de financer ? ATTAC a sorti un rapport dernièrement qui s'appelle la dette sociale. Je ne sais plus le titre exact, mais ça tourne autour de ça. Et il démontre que depuis 2016, c'est-à-dire depuis la mise en place du CICE, des exonérations massives de cotisations sociales, les baisses massives d'impôts, c'est 450 milliards qui manquent de manque à gagner soit pour la sécurité sociale, soit pour le budget de l'État. 450 milliards, j'ai fait le calcul, cette année, les recettes fiscales prévues au budget 2025, c'est 300 milliards. Ça veut dire qu'on est à plus d'un an de recettes fiscales qui ont été exonérées. Donc dire aujourd'hui, et ces recettes fiscales, elles n'ont pas servi à l'emploi, parce que le CICE n'a pas créé d'emploi, ou pas massivement en tout cas, et pas à la hauteur de ce que ça coûte. Tout ça a fini dans les poches pour rémunérer le capital et les actionnaires. Et donc, l'argent, il existe en fait. C'est encore une fois un choix politique, le choix de faire contribuer les revenus, et tous les revenus d'ailleurs, à hauteur de ce qu'ils rapportent aux personnes. Et ça, je pense que c'est fondamental. Quand on dit qu'il faut revoir le barème de l'impôt sur le revenu, certains partis politiques préconisent même d'aller jusqu'à 80% sur les dernières tranches, c'est pas en soi... c'est pas un scandale, parce que ça veut dire que ce sont des personnes qui gagnent énormément, en fait. C'est-à-dire que c'est pas le smicard qu'on va taxer à 80%, c'est plutôt le milliardaire.
Merci messieurs. On termine avec peut-être d'annoncer les prochaines mobilisations qui auront lieu sur le territoire et j'imagine aussi à l'échelle nationale. Les intersyndicales, j'imagine, ont des choses encore à faire valoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, des dates.
Alors, je dis, il y a une revendication qu'on n'a pas abordée, mais elle est justement sera évidemment au centre des mobilisations à venir. Mmh. Bon, c'est l'abrogation de la réforme des retraites, donc des 64 ans.
On y revient toujours.
Évidemment, pour une revendication, un retour à la retraite à 60 ans, et à 55 ans pour les métiers pénibles. Le financement pour ça, c'est pour nous l'augmentation des salaires, y compris pour que tout le monde puisse payer les impôts. Il faut évidemment qu'ils aient les moyens de le faire, qu'ils aient du salaire, évidemment, pour ça. Outre le fait, comme l'a dit Emmanuel, qu'il faut faire payer ceux qui gagnent le plus d'argent et qui l'ont gagné généralement sur le dos de ceux qui en gagnent le moins. Donc, évidemment, on a des revendications sur l'abrogation de la réforme des retraites pour un financement par le salaire. C'est pour ça qu'on articule, on ne peut pas partir dans des luttes strictement qui soient fonction publique, d'abord parce que tous les moments ne sont pas tous pertinents pour aller mobiliser largement les fonctionnaires. Là, on le voit bien dans la période. Pour l'éducation, j'imagine que là, ce n'est pas forcément
c'est pas le temps idéal.
Mais il faut lier les luttes entre elles. C'est-à-dire que pour financer une fonction publique, notamment hospitalière, sur la santé, mais pas uniquement, qui soit efficace, il faut augmenter les salaires, parce que augmenter le salaire des salariés du privé, c'est plus de cotisations pour financer l'hôpital public, et il faut supprimer l'exonération de salaire. C'est pour ça que là-dessus, la prochaine action qui est prévue et dont les modalités seront définies très rapidement, pour ce qui concerne la CGT, on a déjà préparé les actions pour le 5 juin, puisqu'il y a une journée un peu symbolique, parce qu'il y a une proposition de loi sur l'abrogation de la réforme des retraites. Mmh. Donc c'est une journée d'action justement sur cette question-là, parce qu'il y a encore 70% quand même des personnes de la population qui considèrent qui est opposée à mourir au travail, parce que la question elle est là, hein, 64 ans c'est mourir au travail. Donc évidemment elle se couple avec les revendications sur l'augmentation des salaires, notamment pour les métiers les plus féminisés, les plus mal payés, les aides à domicile, etc. Et également dans la santé et le médico-social en général, et pour la sauvegarde de l'emploi, évidemment, pour protéger les emplois et faire payer les employeurs qui détruisent l'emploi. Donc ça, c'est trois revendications, ces revendications qui rigoureront la journée pour nous du 5 juin, qui prendra des formes diverses d'actions devant des entreprises, devant des services publics et dans le cadre de mobilisation plus large.
Très bien. Merci à tous les deux. Rendez-vous le 5 juin pour diverses mobilisations autour des services publics, on l'aura compris, mais pas que, notamment l'abrogation de la réforme des retraites, un sujet qu'on a déjà documenté ici et qu'on n'hésitera pas à refaire. Merci à tous les deux, donc Emmanuel Mercier du syndicat FSU et Didier Calvos de la CGT, respectivement toutes les deux de la délégation du 41. Donc, je vous laisse avec le journal de bord d'un élu local, Nicolas Orgelet et Gaël Bernard. À 18h, c'est La Roxette avec l'ami Christophe. Bonne fin de journée sur Studios F. Merci à tous et à toutes.
Journal de bord d'un élu local, c'est l'épisode 142 et il s'appelle Blois en commun, la création d'une liste citoyenne. Avec nos invités, Sylvie Lafont et Jean-Baptiste Charvet. C'est parti! Bonjour Nicolas!
Salut Gaël!
Nicolas, on est dans ma cuisine aujourd'hui.
Tout à fait.
J'aime bien dire où on est. On reçoit aujourd'hui deux personnes qui font partie de la liste citoyenne Blois en commun. On reçoit donc Sylvie Lafont. Bonjour Sylvie.
Bonjour Gaël.
Et on reçoit également Jean-Baptiste Charvet.
Bonjour tout le monde.
Bonjour à vous deux. Alors Nicolas, qu'est-ce que c'est que cette histoire de liste citoyenne Blois en commun ?
Eh bien le mieux, ça va être de demander à nos invités de nous expliquer ce qu'ils ont vécu et de ce que c'est que cette liste. Est-ce que Jean-Baptiste, t'accepterais de nous raconter un peu l'aventure de cette liste citoyenne ? Est-ce que toi, t'en as compris ?
Eh bien, je passais par les greniers de Vinoy un certain week-end de septembre, et en fait, ce n'était pas une promenade habituelle, puisque c'était un week-end de formation aux méthodes de démocratie participative. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'on a appris à faire de la démocratie participative et efficace. C'est possible de prendre une décision à 50 en 5 minutes. Et surtout, c'est possible d'avoir un projet ensemble, de gauche et écologique, parce qu'on a un objectif ambitieux, et ce serait de révolutionner Blois. Et oui.
Alors, tu as commencé à dire que justement, vous étiez une cinquantaine de personnes. La liste aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous dire ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Qu'est-ce que vous faites ?
Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On ne fait pas que des réunions. On travaille sur un programme et surtout, on commence à être assez variés en termes de membres du collectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des militants, partisans politiques encartés. Il y a aussi des associatifs et des citoyens qui ont été intéressés par la démarche. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on commence à réussir à sortir de la zone de confort et de la zone habituelle des militants. Et c'est pour ça qu'on... Comment dire ? On peut avoir des idées nouvelles qui sortent de l'ordinaire.
Cet échange, à travers des discussions, à travers...
Voilà, à travers des discussions et puis aussi du militantisme de base, entre guillemets, c'est-à-dire on va chercher des gens dans la rue, on leur dit « Allez, viens, regarde tout ce qu'on peut faire ». Et okay. Voilà.
D'accord. Tu as dit aussi tout à l'heure, juste avant les réunions, que vous étiez en train de démarcher dans la rue directement, comme tu viens de dire. Vous allez vraiment à la recherche des gens ?
Alors ça, on vient de commencer.
Ouais.
Et oui, l'objectif, en fait, c'est de réussir à être vraiment représentatif. Donc de ne pas représenter toujours les mêmes catégories socio-pro qu'on voit beaucoup en politique, mais d'aller chercher ce qu'on appelle les minorités visibles pour inclure tout le monde. Et pour faire ça, il faut réussir à aller chercher d'autres personnes que les militants habituels en politique.
Ok. Nico, c'est un travail que tu vois aussi en tant que militant ?
Moi, je le vois en tant que militant et en tant que politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis élu, mais je pense qu'à la fin d'un mandat, il faut faire le bilan de ce mandat et être aussi critique de soi-même. Et que ça ne se fait pas tout seul. Il faut pour ça aller chercher des regards extérieurs. Je pense aussi que c'est notre responsabilité de permettre le renouvellement et des idées et des gens qui s'impliquent. Voilà, on a vu tous les moments d'abstention, on a vu aussi une certaine défiance de la politique, et je crois que pour réenchanter la politique, il faut donner les moyens aux gens d'agir par eux-mêmes, et que se sentir acteur, c'est une des meilleures manières de lutter contre ça. D'ailleurs, déjà tout au long du mandat, et on peut peut-être le dire, on avait une association qui nous accompagnait, Blois Naturellement, dont Sylvie, tu es la présidente.
Blaisois Naturellement.
Blaisois Naturellement, pardon. Blaisois Naturellement, qui a accompagné les élus, Blaisois Naturellement, donc les 9 élus du groupe Écologie, Génération et Citoyens. Vous faisiez un travail, on va dire, d'éducation populaire, de lien aux élus pour nous obliger à de la transparence et à de l'échange tout au long du mandat. Peut-être tu peux nous raconter ça, parce qu'après, c'est vous qui avez lancé cette dynamique de l'île citoyenne.
Oui, tout à fait, Nicolas. Effectivement, l'association Blaisois Naturellement, depuis plus de 3 ans, s'était attachée à une transparence, à une communication auprès des citoyens sur ce qui se faisait à la ville de Blois. Et donc, on a eu l'occasion de faire plusieurs thématiques pour faire connaître des associations locales, que ce soit sur l'économie circulaire, sur la gestion de l'eau. Avec la venue d'experts, de partenaires, d'associations, et puis le regard très important des élus avec leur expérience et connaître le fond des dossiers, en fait. Parce que en tant que citoyen, on voit souvent une fois que les choses sont abouties, mais on ne voit pas comment le travail s'est fait en amont et là où on pourrait éventuellement agir avant que les décisions soient prises.
D'accord. Alors donc, dans Blaisois Naturellement, il y avait à peu près combien de personnes, tu saurais nous dire, qui venaient à ces réunions ?
Alors, il y a des personnes qui sont adhérentes,
oui.
À peu près une cinquantaine de personnes, mais après il y a des sympathisants, on va dire. Et là, on a plus de 350 personnes à peu près qui sont sympathisants, qui sont informés de nos actions.
D'accord.
Voilà, l'année 2024 a été ambitieuse puisqu'on avait décidé de faire des actions tous les 2 mois. Donc le rythme a été difficile à tenir et puis il y a eu ce collectif, un citoyen dont
Jean-Baptiste
vient de parler. Et puis maintenant nos forces sont rassemblées autour aussi du collectif.
D'accord. Alors justement, parlons-en un peu de ce week-end. Donc Jean-Baptiste en a parlé rapidement. C'est Sylvie, c'est Blaise-Bois Naturellement qui a organisé ce week-end, c'était fin septembre, c'est ça?
Oui, c'était fin septembre, effectivement, au Grenier de Vineuil. C'était sous l'impulsion de Blaise-Bois Naturellement, avec l'aide des élus aussi. Voilà, et puis surtout de Fréquence Commune, qui est une coopérative, ouais. Voilà, qui est venue avec deux intervenants absolument exceptionnels.
Et qu'est-ce qu'ils faisaient?
Ils animaient, ils nous ont permis de... Il y a eu des temps d'interconnaissance, bien sûr, hein, parce que sur les petites cinquantaines qu'on était, tout le monde ne se connaissait pas. Et puis, on a travaillé à la rédaction d'une raison d'être.
Quoi? C'est quoi une raison d'être?
Une raison d'être, c'est nos valeurs en fait, pouvoir écrire ce qui va nous rassembler et vers quoi on va.
Mais comment on fait ça à 50? Jean-Baptiste, comment on fait ça?
Eh ben, il faut des méthodes,
ouais.
Et ces méthodes, elles existent. En gros, elles ont été théorisées depuis très longtemps par plein de chercheurs que je pourrais pas citer. Et ce que fait Fréquence Commune, c'est qu'ils vulgarisent ces méthodes pour les collectifs comme nous. Et exemple de méthode, il peut avoir des débats mouvements. Quand on vote juste oui ou non, par exemple, en général, ça fait 50-50 et la moitié des gens sont pas contents. Avec l'exemple d'un débat mouvant, au lieu qu'on vote juste oui ou non, on va se placer sur une sorte de carte de plus ou moins oui ou plus ou moins non. Et en fait, en discutant, les gens vont se déplacer sur cette carte en fonction des avis des autres et ça permet de créer du consensus. C'est beaucoup moins clivant et j'ai oublié la question.
Justement, comment ça se passe?
Quelques outils de comment décider à 50.
Non, mais moi ça m'intéresse parce que cette histoire de débat mouvant, ça marche pour de vrai. Qu'est-ce que ça a déclenché?
Alors il y a un fait super intéressant, c'est qu'au début il y avait des questions clivantes, c'était fait exprès en fait, c'était pour nous former là-dessus. Et les gens étaient très éloignés de la ligne médiane. Et en fait, au fur et à mesure que les gens ont parlé, ils se sont groupés naturellement à peu près autour de la ligne médiane. Et les avis étaient moins opposés les uns aux autres.
Il y avait de l'écoute? Il y avait de l'échange?
Oui, et surtout il y avait des animateurs qui maîtrisent ces méthodes,
ouais.
Et qui font en sorte que chaque personne parle et pas juste les personnes les plus habituées à parler qui prennent le plus de place naturellement. Et ça, c'est vachement important en fait pour réussir à recruter des gens qui sont peut-être plus introvertis, qui prendront moins la parole ou qu'oseront moins exprimer un désaccord. Et ça marche, en fait, c'est impressionnant.
Ouais, le collectif fait très attention au temps de parole, à la mixité. Comme tu le dis, chacun a pu s'exprimer.
Ouais, c'est vachement important.
Pour moi, la méthode, cette méthode-là, elle permet d'ouvrir déjà des questions complexes pour pouvoir sentir un peu le pouls de où le collectif a envie d'aller. Après, sur vraiment les parties décisionnelles, par exemple, quand on a écrit quelle est notre raison d'être, il y a eu des temps différents, il y a eu des temps d'émergence, c'est-à-dire comment on fait émerger toutes les envies et les idées. Donc ça, c'est un moment où on ouvre tous les possibles. Et là, on a eu des outils, par exemple, les gens se regroupaient par petits groupes pour avoir des temps de parole, écrivaient chacun 2-3 idées de ce qu'ils avaient envie de porter, et puis après ensemble ils allaient les trier pour les 2 idées que chacun avait portées, donc ça en fait 4 par exemple, si t'es à 2 n'en regardez que 3, et puis après ces 3 idées tu vas les échanger avec un autre groupe et ça en fait 6, et sur ces 6 il faut à nouveau en garder que 3, et du coup t'as un effet d'entonnoir et puis ça donne une première trame. Et on a eu un groupe qui a travaillé ensuite sur travaillé ensuite par exemple en petit cercle restreint sur comment on fait une synthèse, on fait une proposition qu'on va proposer à l'ensemble des 50 personnes, et on est arrivé sur un temps de décision par consentement, c'est-à-dire la décision par consentement, l'idée c'est qu'à la fin tout le monde soit d'accord à 50 sur la décision finale. Et donc pour ça tu vas faire des tours de table où tu demandes déjà s'il y a des objections, c'est-à-dire tu vas pas discuter de la virgule et des choses secondaires. Tu vas dire, est-ce que vraiment moi, j'ai un truc qui intrinsèquement au fond de moi me crée une opposition viscérale qui fait que je ne m'y retrouve pas du tout. Et sur cette base-là, les gens qui avaient écrit la proposition vont recenser toutes les propositions de modification, les choses qui vraiment... Et puis repartir travailler, faire une contre-proposition, réécrire leur proposition, revenir, et puis à nouveau on va faire un tour de table, et cette fois on va essayer de lever les objections jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et à la fin on a eu une raison d'être qui a été validée par 50 personnes en seulement un peu moins d'une journée de travail.
D'accord. Il va falloir qu'on arrête là pour aujourd'hui. Je sens que vous avez encore plein de choses à dire, on va dire ça dans un prochain épisode si vous voulez bien. Je me demande juste comment on fait pour, si jamais on a envie d'avoir plus d'informations, comment on peut faire, JB ?
Alors c'est très simple, on prend son téléphone ou son ordinateur et on envoie un mail à bloisencommun@gmail.com. Bloisencommun, okay. Tout attaché, sans majuscule, minuscule ou numéro.
D'accord, ok. Donc on peut rappeler que c'est gratuit, oui. C'est ouvert à tout le monde.
Oui, oui, et on a même une vidéo qui peut expliquer tout ça, qui explique très clairement. Et ça serait bien de mettre le lien.
Sous le podcast.
Oui,
c'est
possible.
Oui, c'est carrément, on fait ce problème.
Cool. Merci.
On fait ça. Ok, ben, merci à vous deux.
Merci.
Et puis on reparle de ça dans un prochain épisode. Merci, okay. Nico. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
À travers ce podcast, vous avez tout compris de nos envies. Mais si vous voulez en savoir plus, allez sur bloisencommun.fr. Il y a des vidéos, des infos et surtout les prochaines dates pour nous rejoindre. Vous pouvez aussi nous écrire sur l'adresse mail bloisencommun@gmail.com. À bientôt!